Bonjour et bienvenue dans Certains l'aime à Deauville, l'émission qui débriefe les films sur le tapis rouge. On vous l'avait annoncé et ça y est, l'équipe de CLAC, ou CLAD hein, pour l'occasion, débarque au 46e festival du film américain de Deauville. C'est le cinéma américain de Deauville, mais bon, c'est parti, c'est enregistré dans la boîte maintenant. Je suis Thomas et avec moi ce soir autour de la table, mon binôme de toujours, Thierry.
Salut.
Également un autre acolyte habituel, un autre habitué de CLAC, Marwan.
Bonsoir.
Et Valentin, que les fidèles de l'émission reconnaîtront, puisqu'il nous accompagnait déjà pendant le PIF 2019. Bonsoir Valentin.
Bonsoir Thomas.
Bonsoir, bonsoir messieurs. On reviendra ensemble, et même avec nos invités. Bon, ils sont pas là ce soir, parce qu'on n'aura pas tout le monde tous les soirs. Hein. C'est éprouvant, les festivals. Hein, y a beaucoup de films à voir. On reviendra sur les films projetés pendant le festoche, donc du 4 au 13 septembre 2020, avec une priorité sur les films de la compétition et les avant-premières. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes chauds, messieurs?
Mais oui, mais nous sommes toujours très chauds.
Comme le feu.
Comme le feu. On avait très peur, hein, parce qu'il y avait l'annulation de Cannes, il y avait la numérisation d'Annecy.
C'est vrai que ça sentait pas forcément bon, hein, cette édition.
Ça sentait pas très bon, mais Cannes et Annecy sont là. Mm. Bon alors, un petit comité, mais ils sont là. D'ailleurs, aujourd'hui, on aura deux films de Cannes à l'affiche. On aura Peninsula et Teddy, mais on en parlera avec les films en avant-première. On commence par les films de la compétition. 15 films en compétition cette année. 3, 4 même aujourd'hui, parce qu'on a aussi... on a 4 films aujourd'hui, parce qu'on a également le film d'ouverture, qui était passé hier. On va faire un bloc, on va tout faire d'un coup. Aujourd'hui, Minari, The Assistant et Sound of Metal. Metal.
Sound of Metal.
Oh oui, l'âme de Hard Rocker est là, Thierry.
Oh oui.
On le sent. La compétition sélectionnée par Bruno Bard, directeur du festival, et avec les jurys qui vont avoir le choix à faire dans cette compétition. Le jury de Vanessa Paradis qui préside, et aussi un jury Révélation, présidé par Rebecca Zlotowski.
C'est un sacré plaisir. Bon, alors après, les jurys de Deauville, enfin, moi, j'étais là l'année dernière. C'était déjà un sacré plaisir. Il y avait toujours du beau monde, mais là, c'est le feu, quoi, cette année aussi, hein, en termes de jury.
Ouais, c'est vrai que c'est assez impressionnant de voir, encore une fois, même des jeunes réalisatrices qui ont fait qu'un film comme Mounia Médour avec Papicha, être présentes ici, puis, et voir des acteurs confirmés comme Vincent, Lacoste, puis même voir tout ce beau monde, c'est toujours agréable. En plus, maintenant, on a un côté un peu masqué, on a l'impression en même temps d'être au carnaval, c'est pas mal, j'aime bien.
Oui, alors après, je suis une petite déception pour ceux qui attendent sur le tapis rouge, je sais pas trop ce que ça donne, mais voir passer les stars avec le masque plus les lunettes de soleil.
Alors, en grande majorité, ils les retirent quand tu vois ce qui est filmé, ils s'arrêtent au moins en train de faire 2-3 photos. Mais ça apporte quelques petites choses positives aussi, parce que tout à l'heure, nous sommes passés, nous, sur le tapis rouge, et on pouvait saluer la foule. Alors, il y a une dame assez âgée qui nous a répondu.
Mais non.
Elle s'est peut-être dit que c'était des gens connus, tu vois. Il y a ce petit avantage, tout à coup, tu peux devenir, grâce à ton masque, un people.
Mais bon, alors le tapis rouge, les people, c'est bien, mais on n'est pas là pour le tapis rouge, on n'est pas là pour les people, alors encore que je renverse ma flotte sur l'ordinateur, c'est génial, en début d'émission, c'est super, tout va bien, les aléas du direct, enregistré. À la compète, on va commencer par le film qui a ouvert la compétition, qui a ouvert même le festival, qui a été projeté vendredi. Pour l'ouverture du festival, Minari de Lee Isaac Chung. Alors, d'origine coréenne, mais américain. L'histoire d'une famille d'origine sud-coréenne qui s'installe en Arkansas avec un père qui veut faire pousser des légumes coréens. Et une maman qui n'était pas trop pour. Voilà, voilà. Et un petit garçon qui s'amuse. Et une mamie qui débarque de Corée aussi, qui va devoir faire connaissance avec le petit garçon. Une petite histoire de famille toute mignonne pour commencer. Oui, Marwan.
Quand on lit ce synopsis, on a l'impression de voir un devoir de vacances d'un jeune réal qui veut aller à Sundance. Et en réalité, c'est un peu le cas, mais je trouve que ça dépasse ce cadre-là. Ça veut raconter une belle histoire qui se passe dans les années 80, avec une famille dans l'Amérique profonde, donc l'Arkansas. Et c'est fait avec justesse. Ça évite très souvent les écueils du genre. Ça évite les situations, on va dire, d'éléments déclencheurs habituels dans ce genre de film. Il y a un côté feel good, mais qui n'est pas aussi accentué que les films feel good à la Sundance. Et dans tout ça, il y a aussi une identité visuelle, je trouve. Un petit rapprochement qu'on pourrait faire, c'est avec les débuts d'Ang Lee. C'est ce côté, ce jaune un peu appuyé, cette pellicule qui sent bon la nostalgie, je trouve. Et c'est vraiment, je trouve, un film qui me passionne juste pour sa manière et sa sincérité.
Je te rejoins pas mal là-dessus.
Ouais, ouais, Thierry.
Et en fait, moi, ce qui est assez intéressant, du coup, c'est ce que tu disais, Thomas, du coup, c'est que Lee Isaac Chung, donc, du coup, est un Américain d'origine coréenne. Alors, c'est un Coréen, donc, de deuxième génération, comme l'est le personnage principal, le petit, donc, David. Ses parents ont émigré. Et du coup, il a toujours ce regard avec cette double culture qui est extrêmement présente. Et surtout, c'est au niveau des deux enfants que ça se passe, entre lui et sa sœur, donc, Anne, qui parle autant coréen qu'anglais. Et qui comprennent les deux. Donc, les parents ne leur parlent quasiment qu'exclusivement coréen. Ils se répondent en anglais, mais tout le monde se comprend dans cette espèce justement de double culture assez intéressante. Et c'est à la fois un père qui essaye d'avancer, bah, justement vers, je vais pas dire la modernité, mais vers le rêve américain tel qu'on lui propose, de quitter ses traditions pour s'intégrer vraiment à cette nouvelle terre qu'il a acquise et devenir propriétaire terrien. Et la mère qui, justement, elle, sans vouloir retourner totalement à ses racines, aimerait garder quand même ses ancrages et des habitudes qui ne lui font pas peur, parce que là, c'est vrai que on débarque un peu dans l'inconnu, ils savent pas du tout où ils vont, et ça leur fait, ça les fait sacrément flipper.
Valentin, comment t'as perçu ce film? Ouais.
Bah, une histoire de famille, quand même, qui reste très intéressante aussi entre le choc des cultures, entre cette grand-mère très portée sur les traditions coréennes et ce jeune David, effectivement, qui est peut-être plus américain finalement que coréen, vu qu'il a vu toute son enfance se faire aux États-Unis. Et aussi, malheureusement, la non-histoire de sa sœur, qui, pour des raisons malheureusement culturelles, se retrouve complètement effacée par le simple fait, malheureusement, d'être une fille. Et elle avait certainement une très belle histoire à raconter dans un autre film, mais c'est choquant à voir à première vue, et c'est finalement très très pertinent si on prend un peu de recul sur la culture asiatique. Avec les enfants, avec les enfants filles.
Surtout en Corée, où de toute façon, oui, c'est vrai que, enfin, on le voit. Alors, j'imagine que, enfin, je crois que j'ai l'impression quand même, quand tu vois comment ça se dénonce de plus en plus, que c'est même potentiellement accentué avec le temps. Et c'est vrai que généralement, dans la Corée, enfin, en Corée, l'idée quand t'es une femme, c'est de te marier, quoi. Et il n'y a pas trop d'autres buts. Donc oui, en effet, c'est logique, malheureusement, que la sœur soit assez invisibilisée par rapport à son frère. Et on le voit dès le début quand les parents, justement, parlent de réussite pour le petit David. Alors qu'elle est plus grande, qu'elle est sur le point, elle est plus avancée dans ses études. Donc ça, c'est plutôt elle qui devrait bientôt aller à l'université ou autre chose, mais c'est pas important. L'important, c'est que le petit, lui, réussisse.
La réussite, c'est important. Vous voyez un bel avenir pour ce film ou pas?
Ce serait pas mal, après.
J'aimerais bien, par rapport au fait qu'il soit aussi précis dans sa façon de raconter cette histoire-là, et en même temps d'avoir aussi cette justesse dans l'idée de raconter l'histoire de l'enfant et en même temps celui des adultes. C'est deux histoires qui se suivent et qui se rejoignent de temps en temps, et en même temps l'une ne va pas dévorer l'autre. Je trouve que c'est un film qui vit continuellement en harmonie avec ces personnages qui sont un peu souvent très typés, très gros, mais en même temps très bien écrits, comme le personnage de l'habitant qui est très croyant et qui porte sa croix et qui est vraiment dans l'image d'un personnage croyant. Et c'est souvent comme ça, c'est des gros personnages qui ne sont pas forcément trop grossis non plus. Et
on
je
parle
pense que
voisin Paul qui voilà, est joué par Will Patton, ça fait toujours plaisir de voir Will Patton.
Et voilà, donc moi je pense vraiment que il peut trouver un public, et il faudra savoir communiquer dessus, évidemment.
Ouais, je pense que ça va être compliqué, malheureusement, de se faire un énorme chemin. Alors après, l'estampillage Sundance, bon, Deauville, ça lui apportera pas grand chose en termes de visibilité. Mais Sundance, ça peut-être au moins le faire rentrer sur des réseaux indés, sur de la distribution qui sera pas forcément dégueulasse.
Il a un distributeur. Il a RP.
Il a RP,
ouais.
Donc on peut espérer une sortie en salle.
On peut espérer une sortie en salle et ouais, on vous conseille d'y aller quoi. C'est vrai que c'est, comme tu le disais Marwan au début, c'est très estampillé festival, ça se voit aussi, mais il y a quand même un ton qui est différent. Moi j'aime bien la manière dont ça joue justement avec les tons. Il y a un côté dans l'humour qui n'hésite pas à taper dans de la lourdeur, tout en étant, enfin ça dépasse pas la limite en fait. Ça veut jouer sur des blagues lourdes, mais parce que ça fait partie de la diégèse du truc et c'est pas en train de t'éclater à la gueule. Donc ça garde cette espèce de douceur constante. Et même les personnages qui font des choix qui ne nous conviennent pas par rapport à la manière dont ils se comportent avec leurs proches, on comprend ces choix, on comprend leur douleur, on comprend leur souffrance, leur volonté d'avancer, leur volonté aussi de d'être ensemble. Ouais, c'est un très beau film en fait.
Oui, Marwan.
Non, c'est pour dire que c'était top. J'approuvais à 100% l'avis de Thierry.
Film suivant de la compétition, compétition impitoyable. C'est un peu comme Dallas Deauville, hein. Ça commence par un D, c'est un peu la même chose. Et d'ailleurs,
t'as écrit ça?
Ouais, il faudrait que. Ben, on regarde des films, on n'a pas le temps d'écrire, que veux-tu.
ça me va, je trouve ça beau. Moi,
c'est vraiment terrible. Et en parlant d'univers impitoyable, on va dans l'univers de The Assistant.
Welcome. Have a seat. Whatever's going on, you can tell me. That's what I'm here for. You're relatively new to the company.
I mean, I've been working here for nearly 2 months.
And you're under a lot of stress. Entry-level jobs in this industry are tough, right? Long hours. First one in, last one out.
Good night.
You're smart. You have to be smart. It's a tough job, but I can see that you've got what it takes.
I want those new pages before I get on the plane.
He promised the first thing.
Where are we at?
$200K in 2 points.
That's bull.
Maybe he can put in a good word for you.
No, he'll hire externally.
Listen, his schedule has shifted. Does 7 p.m. work?
Still at the hotel, or?
Yes.
What?
This is turkey. I said chicken.
There's a girl waiting.
Oh, her. She's been here before, a few times.
What is it?
The wife. Say he's in an important meeting.
No, say he's in a screening.
Where is he? What did you say to him? What did you say? They told me you were smart.
I overreacted.
It was not my place to question your decision. I will not let you down again.
Now he can always come to us.
Aïe, 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 confondre du poulet de la dinde, mais c'est pas possible, non, ça.
C'est clair, moi j'ai envie de la gifler dans cette scène.
The Assistant de Kitty Green, film d'une heure 27 avec Julia Garner dans le rôle d'une jeune diplômée qui veut devenir productrice et qui donc se fait embaucher en tant qu'assistante chez un grand directeur de l'entertainment, du divertissement, un grand patron tout puissant qui ne sera jamais précisé vraiment directement et même qu'on ne verra jamais dans ce film, et très très vite, elle va être accablée, surmenée, noyée par le boulot, et elle va découvrir aussi les petits abus, les dérapages de ce patron tout puissant, et ce système qui protège ces dérapages-là. Un film très très fermé, un peu, très étouffant, on peut le dire aussi, mais c'est volontaire également, en même temps. Chers amis, comment avez-vous trouvé The Assistant, Marwan?
J'ai été assez troublé par ce film pour plusieurs raisons. C'est qu'en général, quand on regarde un film et quand on voit un film et qu'on se demande pourquoi on n'accroche pas, et on se demande si c'est lié à notre goût, si c'est lié à notre ouverture, si c'est lié à cette possibilité qu'on ne soit pas fait pour ce cinéma. Et dans ce film-là, je me suis posé la question. Je me suis demandé pourquoi je n'arrivais pas à rentrer dans ce film. Et il y a une phrase, je ne sais plus qui l'a dite, c'est « On est responsable de notre propre ennui ». Et dans cette exposition très longue pour moi, dans ce personnage qui passe la journée à remplir des missions, à répéter les choses, à être aliéné par son travail, il est possible que l'on s'ennuie. Et pourquoi pas? Et j'ai particulièrement eu du mal. Et je pense que finalement, ça aurait fonctionné si elle avait appuyé davantage ce principe-là. Et malheureusement, ce n'est pas le cas parce qu'elle par la suite va changer de totalement de forme et rendre la chose beaucoup plus lisse, beaucoup plus présentable et en rythmant davantage les actions de son personnage qui va avoir des antagonistes et c'est peut-être dommage, mais en même temps c'est des scènes magnifiques et c'est ça qui m'embête. Je suis devant ce film dans une contradiction totale. J'ai l'impression de m'être ennuyé, mais en même temps d'y avoir vu du vrai. Et donc voilà, je suis troublé. Je l'ai pas aimé, mais je l'ai pas détesté non plus.
Aïe 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 aïe. Alors moi je défendrai plutôt ce film, mais si quelqu'un veut l'accabler encore une fois, allez-y.
Oh, c'est pas accablé, hein.
Valentin.
Bah, je suis de l'avis de Marwan, du coup. Étrangement, je me suis ennuyé, mais j'ai aimé la première partie de ce film,
mm-hmm.
qui était pour le coup très, très, assez abstraite. C'est-à-dire que c'était des tâches, pas spécialement précises, mm-hmm. c'était juste un ensemble de tâches, une routine, un quotidien assez banal pour le coup. Et voilà, je m'attendais à un long film sur la banalité, sur l'ennui,
mm-hmm.
et lui donner une seconde partie plus concrète dans ses objectifs, comme disait Zimmerwan, avec des antagonistes. Un objectif, en plus, c'est-à-dire que, voilà, ouais. on la voyait naviguer un peu dans le flou pendant trois quarts d'heure.
Mm-hmm.
Très convaincant, très prenant, et la voir se trouver d'elle-même en plus, un objectif très très concret, ça m'a un peu sorti de cette histoire. Mm-hmm. Donc ça raconte une bonne histoire, mais malheureusement pas celle que je voulais voir arriver à la moitié du film.
Mm-hmm. Thierry?
Moi, je suis resté assez imperméable, mais c'est pareil, c'est plus ou moins pour les mêmes raisons, en fait. C'est que j'avais l'impression qu'en fait, le film n'allait pas forcément proposer quelque chose de concret à faire. Et quand il me l'a proposé, c'était peut-être un petit peu tard. Du coup, il y a quand même toute une panoplie, en fait, de, je sais pas, je vais pas dire de portrait, mais de description, ouais, de la vie au bureau quand tu es une jeune arrivante là-dedans.
Mmh.
Et qu'en plus de ça, bah, justement, t'as pas forcément envie de faire de vagues, que t'es un petit peu timide et que c'est compliqué aussi d'arriver, d'avoir des gens très établis qui ont une forte personnalité autour de toi et que tu te fais littéralement bouffer. Et ça m'a fait énormément mal pour cette personne. Alors à la fois je trouvais que c'était très appuyé, des fois de manière peut-être un peu exagérée pour bien accentuer le propos, mais ne serait-ce que quand tu vois cette personne, cette jeune femme qui attend dans la salle, enfin qui est en train d'attendre d'avoir justement une entrevue avec le patron, et quand juste cette assistante vient et lui dit c'est bon, vous pouvez y aller, elle lui balance son manteau à la gueule, quoi. Il y a aucun moment où c'est valide de faire ça, où on lui a dit vas-y tu peux lui donner, elle lui a pas proposé, non. Et c'est là que je dis voilà, c'est une personne qui se fait écraser, qui malheureusement en fait indirectement va valider ça parce que c'est son statut. Et ouais, j'ai trouvé ça très grinçant en fait, mais c'est aussi malheureusement un portrait assez absolu, quoi, de la vie au bureau et surtout dans la société américaine, quoi.
Oh, alors est-ce que c'est que dans la société américaine, je sais pas, mais
le système hiérarchique tel qu'il est montré là, je trouve que généralement quand même, enfin je sais pas, moi je vois dans les mêmes, enfin dans ce qu'on peut voir là dans le milieu du travail chez nous, à la grande limite on respecte quand même les gens qui sont entre grands guillemets en dessous de l'échelle. Sauf quand c'est vraiment très bas, malheureusement.
Bah, ici, là, on est dans un milieu où les places sont très très chères. Alors ouais. Après, oui, voilà, c'est l'assistante du big boss de l'entertainment, donc d'un métier qui fait rêver, quelqu'un qui a beaucoup de pouvoir. Et effectivement, on a. Oui, c'est vrai que les défauts font ses qualités. C'est parce que c'est par rapport à ce qu'il défend. C'est-à-dire qu'on voit une succession de tâches, effectivement, c'est très assommant. On perd la notion du temps parce que ce sont des petites tâches qui s'accumulent. On est exténué même en la regardant. Alors bon, moi, il faut dire que je suis arrivé un peu en retard, donc je l'ai vu sur les marches. Voilà. Donc j'étais en 4DX pour ce film. Mais on a une succession de tâches qui s'accumulent. Donc sur elle, elle perd la notion du temps, elle oublie l'anniversaire de son père, elle voit plus ses amis. Donc on voit déjà la dureté de ce métier qui, déjà en soi, sans que. Il y a un harcèlement permanent, en fait, mais qui est systématisé, qui est impliqué dans ce boulot-là. Plus, on la voit, elle est enfermée. Chaque fois qu'elle est dans le cadre, eh ben, on la voit pas complètement. Soit il y a les murs qui prennent la moitié du cadre, ou alors on la voit dans un cadre de porte. Enfin, elle est quasiment absente, ou elle a pas d'espace. Elle étouffe, on étouffe avec elle. Et on étouffe en permanence, et tu la vois, elle est écrasée.
Je voulais juste dire qu'on peut dire qu'elle fait partie des murs, tu vois.
C'est ça, elle fait partie du décor, elle fait partie des meubles. Et donc, et par contre, le jour où il y a un petit accro, bam, elle s'en prend plein la tronche. Par contre, quand ça se passe bien, on lui dit pas. Et il y a ce côté-là, et il y a aussi le côté harcèlement sexuel. Alors, elle est pas directement touchée parce qu'elle n'est pas le genre du boss. Mais ça, c'est ce genre de choses, c'est aussi ce que dénonce le film dans sa deuxième moitié plutôt, c'est que petit à petit, il y a des petits détails, mais c'est jamais direct. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que c'est pas une your face, c'est que c'est plus proche de la réalité. C'est-à-dire que c'est des on-dit, c'est des blagues des heures, c'est des trucs bizarres dans la compta, c'est-à-dire il y a un chèque, il n'y a pas d'ordre. C'est il y a une assistante qui est logée à un hôtel et puis le patron disparaît au moment où l'assistante est logée à l'hôtel. C'est une succession de choses, il n'y a rien de concret. D'ailleurs, quand elle va voir un avocat pour aller dénoncer ça, il n'y a finalement rien de concret. Il y a des discussions où on se dit il pourrait y avoir quelque chose, ou peut-être qu'on se fait des idées, ou peut-être qu'en fait il y a un truc, mais il y a un truc qui flotte. Et donc finalement, elle est convaincue que ça ne vaut pas le coup, donc elle lâche l'affaire. Et au moment où elle lâche l'affaire, il y a quelqu'un qui balance une phrase. Ouais, non, mais t'inquiète pas, t'es pas son genre. Ou alors, oui, ça aurait pu être dangereux, mais t'inquiète pas. Ou fait, qui confirme en fait l'inquiétude qu'elle avait au départ. Et ce système qui l'écrase et qui la maintient là-dedans, qui lui fait continuer. Et c'est très descriptif et on comprend comment des personnages décriés comme, on va prendre au hasard Weinstein, par exemple. Ont pu faire autant de choses, ont pu avoir autant de pouvoir, parce que le système est comme ça et qu'il n'y a rien qui peut les empêcher, parce que individuellement, les employés n'ont pas la capacité, forcément, s'ils ne sont pas victimes directes, de faire quoi que ce soit.
Merci, ouais.
Et j'entendais, je chopais une critique à la sortie, il y avait une discussion à la sortie de la salle, un mec qui disait mais ouais, c'est dommage, il n'y a pas de chute. Et bien, en fait, c'est ça le point. C'est qu'il n'y a pas de chute, en fait. C'est que c'est une continuité, que ça continue. Et c'est ça que ça veut dénoncer. C'est qu'en fait, il n'y a pas de dénouement.
Bien sûr. C'était une forme de complicité indirecte, en plus, par toutes ces personnes qui soupçonnent tous des choses, mais qui, par peur de perdre leur boulot, pour des raisons qui peuvent tout à fait se comprendre aussi, par peur de cette personne de pouvoir, ne vont pas s'impliquer, ne vont pas se mouiller, parce qu'elles ont peur, justement, que ça les éclabousse. Okay. Et c'est assez intéressant. Ouais.
Et donc, c'est ça. Et donc, son propos... qui justement, dans sa forme, raconte énormément de choses, et celui qui va peut-être l'empêcher en réalité d'être distribué correctement.
en plus de vouloir à tout prix respecter l'unité de temps et l'unité de lieu, je trouve, et peut-être cette idée de rendre ça un peu plus théâtral, plus... serré, et le rendre plus métaphorique.
The Assistant, donc, de Kitty Green, film en compétition. On continue avec la compétition, alors que Marwan se sert un petit verre d'eau. Voilà, faites la pause, on est à l'arrêt au stand avant le prochain film, Sound of Metal, avec du gros son qui tâche. Alors là, on n'a pas beaucoup de son, on a juste une photo, voilà, pour vous dire sur le film, vous dire à quel point on en est. Sound of Metal, donc... je chope ma fiche, voilà.
Darius Marder.
Oh, de Darius Marder, yeah. L'histoire d'un batteur de métal, voilà, comme ça au moins c'est très très simple, qui tape comme un sourd, qui ne met pas de casque anti-bruit, et arrive ce qui devait arriver, il devient sourd.
Ah bah tiens.
Bah l'eau alors. 2 heures de reconstruction, de quête de soi-même, va-t-il retrouver avec sa copine Va-t-il pouvoir reprendre sa vie d'antan? Va-t-il retomber dans les vieux démons de la drogue? Suspense. Un film qui travaille beaucoup sur le bruit. Est-ce que ça flattait vos oreilles?
Un film qui travaille beaucoup sur le bruit et à la fois pas assez. Alors je sais pas si c'était le mixage au CID peut-être aussi qui peut jouer là-dessus. Mais au début, quand il monte la première scène justement de musique, où là on veut pas encore nous montrer qu'il a des problèmes, on veut juste nous montrer voilà la musique qu'il joue, et le mixage était dégueulasse. On n'entendait rien, j'étais là, enfin c'était pas beau. Je me suis dit, pour un film qui s'est vanté de travailler sur le son, c'est pas fou. Mais par contre, à partir du moment où on va jouer sur la surdité, même si c'est très exagéré, très poussé, que c'est très cyclique, il y a justement le travail sur les acouphènes, le travail sur le son qui disparaît peu à peu, sur la perception un peu étrange des sons, la façon dont ils se distordent, et ça j'ai trouvé ça très intéressant et vraiment bien gaulé.
Mais je crois que le problème de surdité commence dès le début en fait.
Ah, c'est pas forcément montré pour moi, enfin on voit la première scène de concert qui là pour moi expose juste le truc, enfin qui pour moi ça me semblerait logique qu'elle soit claire. D'ailleurs même on voyait les sous-titres pour parce qu'ils ont mis des sous-titres pour sourds et malentendants, justement pour que tout le monde ait la même expérience. Et là-dedans, il n'est pas précisé. Alors qu'à chaque fois, par contre, que ça commence justement à avoir des différences de tonalité, on le précise. Et là, c'était pas le cas. Donc pour moi, c'est une façon d'exposer le truc, de te dire, voilà ce qu'il joue, voilà ce que ça va causer. Donc, cette première scène, c'était un peu dommage. Mais bon, après, ça se rattrape. Et voilà, au final, c'est sûrement une question de mixage. Peut-être que le son, enfin, dans de meilleures conditions, ça passerait mieux. Mais le travail, en tout cas, sur le son, ouais, est assez... c'est le point fort du film. Hein. Je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Par contre, il y a beaucoup de points faibles. On va y venir...
on y vient tout de suite, parce que oui, qui vont prendre Marwan.
Alors, pour les points faibles, c'est pas très gentil de me pointer du doigt pour que je dise les points faibles, mais je vais les dire. Alors, je trouve très très mal rythmé, dans l'idée que c'est un film beaucoup trop long, qui dure à peu près 2h, 2h10, et qui mériterait de durer peut-être 1h20. Parce que j'ai l'impression qu'il y a cette envie de faire ressentir ce que vit le personnage, et l'immersion ne peut qu'exister que en essayant d'imprégner par l'image et par le son, mais imprégner par l'image en essayant vraiment de donner aux spectateurs la possibilité juste de s'étendre dans des scènes lentes ou des scènes qui d'un coup sont montées étrangement, fait que qu'on se lasse, qu'on se pose des questions, qu'on se demande à quoi cette scène, quelle est l'utilité des scènes en fait. Et c'est dans ça que j'ai eu du mal à apprécier le film. C'est aussi j'aime beaucoup l'interprétation des acteurs. Olivia Cooke et Riz Ahmed sont, je trouve, assez bons. Mais étrangement, Riz Ahmed, je le trouvais bon, mais en même temps, je n'arrivais pas à me convaincre de son personnage. Donc je pense que c'est davantage dans l'écriture du personnage, donc dans ce qui a été écrit, et parce que j'ai vraiment cette impression que c'est une coquille vide, que c'est juste une sorte de personnage archétypal qui doit réagir, et parfois de façon un peu robotisée, et c'est dommage, ça manque de vie, et c'est d'autant plus terrible quand on voit l'effort fait dans son travail sonore, dans son mixage, et même dans sa photographie, qui est plutôt agréable.
Valentin ?
Ouais, donc pour revenir sur le côté coquille vide et un peu robotique personnage, ça se ressent même dans son côté d'acceptation de sa situation, qui se fait par étapes très brusques, où il a certainement eu les pires médecins du monde aussi, certainement. Et au final, il réagit, il est dans la réaction pure à chaque fois, sans recul, et il se retrouve à chaque action au pied du mur, et il repart à zéro. Et il se retrouve face à un problème, et il repart à zéro. Il évolue pas, en fait. Il apprend pas, il évolue pas. Et il n'apporte rien, malheureusement, quoi.
Aïe, 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 aïe. C'est dur pour Son of Metal. Thierry, tu veux en rajouter un petit coup, là, t'en cognes?
C'est vrai qu'après, malheureusement, ouais, enfin, Marwan, tu salues Riz Ahmed. Moi, je trouve qu'il est pas spécialement très bon. Et le problème, c'est qu'une fois qu'on a accepté sa palette d'émotions, et de toute façon, bon, après, tu me diras, le personnage est extrêmement cyclique, hein, c'est ce qu'on disait. Donc, ça joue un peu, mais c'est vrai que, il choisit bien ses projets. Et le projet est beau, le projet raconte un truc intéressant. C'est aussi pour ça que j'ai toujours de la sympathie pour le gars. Il joue un peu toujours la même chose, quoi. Et c'est toujours une espèce d'expression décontenancée tout le temps d'absolument tout. Et.
T'as pas vu Venom?
Venom, ça compte pas. Si, j'ai vu Venom. Oui, ça compte pas. Mais c'est un petit peu le gars qui subit ses rôles, quoi. Enfin, il joue toujours des personnages qui subissent quelque chose. Donc bon, alors, il fait passer beaucoup de choses par les yeux. Mais là, ouais, c'est vrai que c'est un personnage qui se relève jamais. Donc, bon, ça joue aussi. Il peut pas faire grand chose de plus avec ce qui lui est donné. Mais c'est dommage parce que ouais, j'avais vraiment beaucoup beaucoup envie d'aimer ce film, et il y a des choses que je trouve assez brillantes dedans, mais c'est vrai qu'en général c'est pas terrible. Et puis c'est vrai qu'après, bon, jouer sur le côté ça c'est un détail, il aurait pu prendre n'importe quoi, il a choisi ça, pourquoi pas, mais choisir le côté de la musique métal pour faire le c'est parce que tu joues du métal que t'es sourd, parce que quand tu joues du métal tu tapes comme un bourrin. Dans le milieu métal, je crois que c'est là que les batteurs se protègent le plus les oreilles. Quand tu regardes le nombre de batteurs sourds, je veux dire, Phil Collins n'était pas un batteur de métal. Il est sourd, il a fait du jazz. Bon, voilà. Enfin, c'est pas vraiment courant, quoi. Évidemment qu'il y a eu des gens qui mettent pas de bouchons d'oreille en concert, il y en a partout. Mais dans le métal, c'est quand même le milieu où on se protège vraiment bien pour avoir fait beaucoup de festivals. Et ce qu'on voit pas dans les choses généralistes, parce qu'on considère que c'est moins violent, donc que ça nécessite moins de protection. Donc voilà, enfin c'était un raccourci qui m'a un petit peu agacé, et puis surtout ça les fait passer pour c'est des sauvages qui n'ont pas de vie, alors c'est pour ça qu'ils jouent de la musique violente, et j'étais là mais enfin il y a quand même autre chose dans cette musique, faut peut-être pas la réduire à ça. Mais bon, ça c'était juste un détail, il aurait pu choisir n'importe quoi d'autre, et il y a un côté animal et bestial qui se relâche et qui est intéressant à voir grâce à ça.
Et puis il y a Mathieu Amalric.
Il y a Mathieu Amalric,
mais ça c'est Turache qui a écrit une chanson. Oh. Mais qui ne chante pas. Il fait juste un caméo. Il fait juste un caméo.
Non, mais la dernière fois qu'on l'a vu, il était tout nu chez Jodorowsky. Ça nous avait déjà ravis.
Ça va, ça suffit. Voilà. Arthur Ashe. qui a une carrière dans le cinéma indé. Voilà.
C'est acté.
Ça y est, c'est acté. Voilà pour la compète. Bon, maintenant, on veut les grosses affiches. Hein, les films en avant-première, ceux qui sortiront chez nous. Et parmi les avant-premières des films cannois. Et oui, parce qu'une année sans Festival de Cannes, ce n'est pas vraiment une année de cinéma. Et pour pallier au manque du printemps, Deauville invite La Croisette. 9 films de la sélection officielle cannoise, sur 56, sont projetés cette année au Festival de Deauville. Et on en a déjà eu 2 aujourd'hui. Peninsula du coréen Yung Chang-ho. La fameuse suite du dernier Train pour Busan qui avait fait sensation. Et également Teddy, dont nous parlerons juste après. Peninsula, évidemment, je pense que beaucoup d'auditeurs l'attendent. Petit extrait de bande-annonce.
Peterson, quand il t'entrera dans le coin.
You get the truck? Come back with the money.
That's $2.5 million per head. If you come back alive.
Peninsula, sorti le 21 octobre 2020, sortie prévue, hein, parce qu'on ne sait jamais, en cette période, il vaut mieux prévenir, c'est jamais. 4 ans après l'épidémie de zombies, en Corée du Sud, la péninsule est complètement isolée, bloquée, et un groupe de mercenaires embauchés par la mafia va s'infiltrer sur cette péninsule isolée, infectée de zombies jusqu'à la moelle, pour aller récupérer un camion bourré de pognon. Parce que le pognon, c'est tellement bon. Et ils vont découvrir que les survivants de l'épidémie sont peut-être plus dangereux que les zombies. Alors on a Thierry Frémaux, le délégué du Festival de Cannes, qui est venu nous prévenir que c'est un film totalement différent et qu'il ne faut pas le juger pas complètement, c'est par rapport au dernier Train pour Busan qui était tellement bon, tellement fort, tellement tout ce qu'on veut. Bon, alors même si on fait abstraction, est-ce que ça vaut le détour, ce Peninsula, Arwan?
C'est un jour de deuil pour moi, vraiment. Je l'attendais comme le Messie.
D'ailleurs, t'es habillé tout en noir. Les auditeurs ne le voient pas, mais tu es habillé tout en noir. Oui.
J'enverrai une photo pour prouver.
C'est changé après le film.
C'est ça. Je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Non, c'est terrible. C'est vraiment terrible. C'est un accident. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. C'est vraiment. Peut-être qu'il y avait ce côté. Enfin, fallait. Ça a fait de l'argent. Il faut encore en faire plus. Donc, faut écrire quelque chose de encore plus. Comment dire, de facilement, enfin, d'acceptable pour le plus gros, pour le grand public. Mais si c'était que ça. Si ce n'était que ça. Malheureusement,
il pleure.
Oui, laissez-moi me remettre de mes émotions. Non, c'est terrible parce que dans ces effets spéciaux, dans ces VFX, dans ce travail des effets, l'idée de recréer
les courses poursuites en camion, tu veux venir?
Laisse-moi
qui
tranquille.
Occupe 90% du métrage.
J'ai mal à la tête quand tu
les cascades
ça.
En 4:4 numérique.
Ah, mais oui, enfin, c'est ça qui est problématique, c'est que tout ce numérique donne l'impression de voir, enfin, on voit toutes les ficelles et puis de voir un jeu de PlayStation 2. Et là, c'est même pas un mensonge. Et c'est très mal écrit. Il y a, je pense, 2-3 moments où tu sens que le réal avait quand même quelques bonnes idées. Il y avait le petit quart d'heure où je me suis dit, ça pouvait être un film genre que je pouvais apprécier même si c'était pas très bon. Et à un moment donné, j'ai été dégoûté. Genre, j'étais dans le ras-le-bol total. Parce que, oui, c'est ça, parce que j'ai apprécié genre le personnage des gamines qui apparaissait, je trouve, de façon assez iconique, de façon assez impressionnante, l'air de rien. Puis c'était ingénieux. Mais je pense que c'est le seul personnage qui était intéressant, parce que même les personnages principaux manquaient de charisme. Et là, je trouve, même pour le dernier train pour Busan, je trouvais que le père était, je trouvais, un mauvais acteur. Mais tout le reste rattrapait. Mais là, il n'y a rien qui ne peut rattraper le fait que le personnage principal soit pas du tout dans les cordes, quoi.
Un film dans les cordes, complètement. Alors là, ouais, je peux pas trop sauver ce film. C'est vrai qu'il y a des effets numériques très très moches. Quand on est dans le film de zombies purs, ils font super bien les zombies, ça a pas bougé. Les mecs, il y a encore les mecs, mais c'est plus exagéré encore le coup des zombies qui font des sauts périlleux en mais en fait au début ça peut être sympa, mais c'est tellement une accumulation qu'à la fin ça devient un gros nanar. Moi je pense que c'est il faut le voir comme un nanar, parce que je pense pas que ça soit mauvaisement fait exprès, c'est juste que c'est mauvais. Et c'est too much. La physique, on s'en fout. La cohérence, on s'en fout. On te pose une règle, bon, ben, ils y voient pas la nuit. Et du coup, ils font une nuit américaine. Alors, c'est bien pour pouvoir voir l'accent. Le problème, c'est que du coup, la règle de les zombies voient pas dans le noir, on la comprend plus. Parce qu'on y voit tout le temps. Et c'est que des trucs comme ça. On comprend pas ce qu' ils veulent faire. Il y a une course-poursuite à la fin. Si vous comprenez comment ça se passe et où sont les voitures les unes par rapport aux autres.
À chaque fois qu'un véhicule se crachait, je me disais, bon, il y a tel personnage dedans, il est temps d'attraper ma manette, la cinématique est finie.
Ouais, il y a pas grand chose. Et puis, les violons de la fin.
Non, mais
interminable.
Et les ralentis. Même à l'ouverture, les ralentis, Valentin pourra en dire même davantage, c'est que, même par rapport à tous ces effets totalement ridicules, c'est que il durait 15 minutes.
Ouais, et puis pour un peu le défendre, ils ont pas eu les moyens de leur ambition aussi, je pense.
Bien sûr.
Le film a coûté 16 millions de dollars, je crois, on a regardé. Donc ce qui est ridicule par rapport à la débauche d'effets spéciaux qu'ils mettent dans tout le film, à savoir 95% des plans. Il n'y a pas un seul décor réel, il n'y a pas. Les voitures réelles sont là juste en élément de décor, dès qu'elles bougent, elles sont en effet numérique. Donc ils ont pas eu le budget à la hauteur de leurs ambitions, ou alors ils ont eu trop d'ambition par rapport au budget qu'ils avaient, quoi.
Ah, clairement. Et en fait, le seul truc que je pourrais te dire, à la limite, pour pas forcément le défendre, mais pour le seul truc qui est appréciable dans Peninsula, c'est l'intention. Et l'intention était juste de ne pas refaire Dernier Train pour Busan et de ne pas refaire Seoul Station. Qui du coup, en soi, voilà, il a voulu faire trois films de zombies qui sont totalement différents, sauf que là, il a voulu beaucoup trop lier les univers, quitte à ramener des personnages pour flatter le fan, au lieu de proposer quelque chose de totalement nouveau. Donc là, il nous propose quoi? Une espèce de chasse au trésor dans un univers de zombies. Et ça aurait pu potentiellement marcher sur le papier. Moi, j'y vois, enfin, c'est ce que je disais, au final, je vais répéter des trucs qu'on s'est déjà dit, j'y vois un effet Nolan, dans le sens où le Dernier Train pour Busan, c'est un espace clos, qui fait un peu penser même à Snowpiercer, quoi que ce soit, où ça va évoluer par niveau, chaque wagon est à un nouveau niveau, il va falloir trouver des façons, justement, par le noir, par plein de trucs, de les faire avancer jusqu'au wagon de tête. Et là, il se débrouille très bien, sa mise en scène, elle est inventive, il y a plein de trucs. Dès l'instant qu'on lui ouvre toutes les vannes, qu'on le met dans un bac à sable gigantesque et qu'on lui dit, voilà, là, t'as un énorme terrain, c'est une map de Call of, éclate-toi. Bah, il sait plus quoi montrer, quoi, donc il essaie de montrer plein de trucs et ça part dans tous les sens. Et c'est vrai que là, Thomas, toi, tu parlais des zombies. Je les trouve pas spécialement bien faits, parce qu'on avait un film qui a joué en plus d'économie de moyens, parce qu'il coûtait beaucoup moins cher, l'autre coûtait 8 millions, ce qui est assez conséquent quand même, hein, mais c'est vrai que du coup, on jouait de maquillage, s'il y avait que des acteurs, il y avait des milliers de figurants du coup qui jouaient ces zombies, qui avaient des petits effets d'accéléré sur eux pour faire une espèce de meute assoiffée de sang. Là, à part dans les gros plans, quand ils sont calmes, quand c'est de la transformation, quand ils commencent à attaquer, c'est que du CGI, donc on a des nuées de gens qui courent numériquement, et c'est dégueulasse quand ils se font faucher par des bagnoles, vraiment, c'est des PNJ qui pètent, quoi.
Ah, mais là, c'est parce que ça, c'est du numérique.
Voilà, oui, c'est ce que je dis, là, c'est du CGI. Donc on a plus cette espèce d'effet organique qui faisait qu'on croyait à ces zombies, en fait, à partir du moment où ils sont pas en gros plan, en train d'attaquer, dans un moment où on se dit, là, tu crains pour ta vie, t'es tout seul face à ce truc devant un mur. Et là, c'est pas le cas, quoi, ils sont en bagnole, on en fait péter plein, c'est rigolo. Et du coup, qu'est-ce qu'on met à la place? Parce que y a un côté 28 jours plus tard, ce que je disais, on joue, l'épidémie est déjà arrivée, ça se passe 4 ans plus tard, on peut plus jouer sur le côté l'infection, on sait pas trop encore ce que c'est, là on est obligé de savoir ce que c'est, comment est-ce qu'on la combat? Bon, on retourne dedans, on fout un pataquès. Pourquoi pas? Et du coup, qu'est-ce qu'on va rajouter pour qu'il y ait de l'enjeu? On va rajouter des méchants militaires. Qui sont quand même vraiment écrits avec le sgeg, quoi. Je veux dire, c'est, je veux dire, le seul truc qu'ils ont trouvé pour les rendre très méchants, c'est, vu qu'ils sont là depuis un moment, ils sont tous devenus fous. Enfin, c'est tout.
Mais je trouve qu'en plus de ça, c'est que, au départ, je trouvais quand même le vrai pareil, enfin, l'attention intéressante, parce que l'idée de mettre en quarantaine tout un pays était pour moi quelque chose qui pouvait créer de l'enjeu. Et dans cela, l'enjeu n'était pas présent dans le film. Parce que, au départ, cette idée de commando pour récupérer de l'argent, mais finalement, il rencontre des personnes qu'il avait croisées auparavant, c'est quelque chose qui va par la suite avec les enfants, rendre le récit beaucoup moins attractif et beaucoup plus prévisible. Et ça, c'est encore une fois très dommage dans ce qui était proposé. Et je pense qu'il a un peu vendu son âme dans ce film, parce que il n'était pas aussi gentil dans le dernier train pour Busan.
Ah non.
Et je sais pas spoiler, mais là il est très gentil et ça en devient de la parodie, et ça c'est dommage. Et pour le coup, juste avec les premières minutes, j'avais envie dans les explications de l'histoire étendue, d'en savoir plus et de savoir comment les gens à l'intérieur évoluaient. Mais le problème, c'est que c'est des tropes de films de zombies, ou même pas des films de zombies, des séries, des genres à la The Walking Dead, parce que tous ces trucs là on les a déjà croisés dans toutes les histoires possibles et imaginables, et ces personnages là n'ont aucune profondeur, c'est vraiment que des coquilles vides. Et en général, je trouve que beaucoup de films coréens jouent sur ces personnages grossis, mais ou qui sont à gros caractères comme dans Dernier Train pour Busan, mais ils sont quand même bien écrits. C'est des gens qui représentent un type comme au théâtre et la théâtre de l'Arte, tu vois, mais
la comédie
la comédie de l'Arte, pardon, excusez-moi, c'est, on est 2h du matin, mais c'est finement écrit, et là ça ne l'est pas du tout, et c'est comme ça tout le long.
Ouais, trop cliché, trop caricature. Et il a duré un quart d'heure, le violon, à la fin?
Facilement. En tout cas, le ressenti était d'un quart d'heure. Mais c'est, tu vois, par rapport à ce que tu disais, c'était là-dessus que je voulais rebondir. Il y avait des caractères extrêmement grossiers dans le film précédent. Des archétypes, sauf que ça passait parce que c'était efficace, parce que les personnages étaient charismatiques, parce qu'on s'attachait à ces personnages, malgré le fait que c'était des portraits grossiers qu'on appréciait. Et il y avait des notions, alors des grandes notions héroïques comme le sacrifice, comme plein de choses. Là, c'est pas le cas. Là, à chaque fois, j'ai eu l'impression que c'était des super-héros, ces personnages. Il y a rien qui peut les atteindre. Quand t'as un personnage qui décide de rester derrière, de s'enfermer, de dire je vais faire diversion, je vais mourir pour les persos, on trouve moyen de le sauver. Du coup, il y a même plus d'enjeu autour de ces persos. Il y a plus la perte, il y a plus la souffrance. Tout le monde, c'est des super-héros, quoi.
Ouais, mais c'est pas le même film, en fait. Mmh. C'est ça. C'est qu'en fait, il a pas voulu raconter la même chose. L'autre était un film de survie et tout le monde peut mourir. Là, c'était un film, c'est un commando, c'est un film d'action avec des zombies, quoi. C'est plus le même truc. Et ça marche moins bien. Parce que c'est tellement caricatural qu'on finit par rire du film, on n'arrive plus à s'impliquer vraiment, quoi. Hélas, Peninsula. Voilà. Bon, 21 octobre 2020, chez nous, si tout va bien. Sauf si les zombies ont pris le pouvoir, que voulez-vous. Faites-vous votre avis.
Bon, vous n'êtes pas obligé, il y aura d'autres choses au cinéma.
Il y aura peut-être d'autres choses au cinoche aussi. Autre film canois, autre film en avant-première, film que vous avez vu, c'est pour ça qu'on enregistre à 2h du matin. Film qui passait à 22h au Festival de Deauville. Teddy de Ludovic et Zoran Boukherma. Sortie prévue le 13 janvier 2021. Thierry, raconte-nous un peu.
J'ai l'air raconter le contexte, en fait, parce que ça va nous faire un petit aparté, mais qui sera très court. Parce que là justement, t'es pas content parce qu'il est tard, je peux comprendre. On est fatigué, on a besoin de se lever, parce que demain aussi, on a des films à mater, on a des articles à écrire, on a plein de trucs à faire. Ce matin, comme un couillon, quand on est parti très enjoué, on s'est aperçu devant le cinéma que j'avais pas mon badge. Du coup, on a dû repartir en arrière, on s'est fait comme des couillons. Mais on a regardé le programme, on s'est dit, il y a quand même un film, il dure que 50 minutes. On va aller le voir, quoi. Je veux dire, ça nous permettra de voir quelque chose.
On en parlera à la fin on parle de Teddy.
En parlant de Teddy. Bon, du coup, voilà, on a vu Teddy ce soir. Petite surprise pour tout à l'heure. on a vu donc Teddy ce soir avec le public qui venait le voir et non pas avec la presse. Voilà.
Oh, avec la plèbe.
C'est ça.
Quelle horreur.
On s'est mélangé au petit peuple.
Vous êtes mélangé au bas peuple. Et donc du coup, comment a réagi le bas peuple et comment avez-vous réagi à ce film de loup-garou, je crois?
Bon, ça s'est bien marré. Moi, je pensais que les gens allaient partir de la salle quand même, mais non, ça va.
Bon, et bon, alors, raconte.
Que dire? Nous sommes trois à parler. Teddy, donc c'est un film français. Déjà, c'est un.
Parle
film
dans le micro aussi.
Teddy, c'est un film.
Attends,
français.
Je vais y aller parce que j'ai l'impression
Marouane,
que
Marouane, vas-y.
En fait, c'est un film qui se passe dans le sud.
Mais on pouvait dire la fiche technique peut-être d'abord, justement, c'est juste ça que je voulais faire.
Oh là là.
Que c'était réalisé par les jumeaux Boukerma qui avaient déjà réalisé Willy Premier.
Vas-y. Voilà.
Oui. Et c'est un film de loup-garou. Marouane, tu vas nous en parler.
Oui, donc ça se passe dans un sud-ouest, dans un petit village où t'as un petit jeune qui aime bien un peu foutre la merde, mais légèrement. Et en fait. Il va très vite se faire mordre par un loup et au fur un loup un truc loup garou on sait pas trop et au fur et à mesure il va se passer des choses, que ce soit auprès de sa réaction par rapport à cette morsure ou tout simplement de ses rapports avec sa copine ou de le rapport avec les autres habitants du village.
Est-ce que vous voulez un peu d'ambiance de Teddy?
Oui.
On aime les ambiances.
Je sais pas ce que c'était, mais en tout cas, il n'y a plus rien.
Je vous jure, hier, il y avait des poils.
T'avais fumé un peu quand même hier?
Non.
Non?
Non.
T'es sûr?
On a pris des champignons avec ma copine, mais on en prend souvent.
M'étonne pas que tu aies eu des poils sur la langue et que tu les as rasés. Si tu te mets à hurler à la lune ou à te transformer en loup-garou, tu pourras revenir me voir.
C'est drôle, ça.
Mais non, je plaisante. On est médecin, mais on a de l'humour quand même. 12 à 8.
Ah, les Pyrénées. Bon, est-ce que c'est pas un peu normal de voir des poils qui poussent sur la langue quand on prend des champis?
Là, quand t'entends ça comme ça, et que t'entends le résumé de Marouane juste avant, t'as pas l'impression que c'est le même film, hein?
Ah ouais.
Je l'ai inventé parce que j'ai dormi. Non, mais...
Et alors du coup, est-ce que c'est un bon film de loup-garou?
Ah mais c'est carrément génial. Hein.
Ouais.
Ouais. Vas-y,
bah ces diverses transformations loup-garou, comme évoqué dans la bande-annonce, sont sujettes à des scènes qui passeront de l'humour absolu à la scène d'horreur pure. C'est-à-dire, pour revenir sur celle qui était dans la bande-annonce avec ses poils sur la langue qui est présentée comme une vanne ici, elle est précédée dans le film par une séquence d'horreur qui nous a certainement tous les trois scotchés dans le fond de notre fauteuil.
Oui.
C'était terrible.
Oui, oui.
Et les jumeaux Zuckermatt?
Oui.
Boukerma
ont un sens de l'horreur qui est quand même assez impressionnant. Là, il y a 4-5 scènes qui sont réparties un peu dans le film, qui scotchent au siège, qui sont dans la suggestion, dans le hors-champ. C'est brillant de ce point de vue-là et elles sont toujours accompagnées, précédées ou suivies d'une scène d'humour vachement drôle et les deux se marient très bien. Aucun genre ne neutralise l'autre.
Ça joue sur le côté docu-vérité aussi, quoi. C'est un petit cadre qui est assez resserré, qui est toujours très très proche des personnages. Et il y a ce côté, voilà, évolution qu'on va suivre, mais pas à pas, quoi. Et autant évolution des mœurs et du caractère social de Teddy dans ce village où il n'y a pas grand monde qui peut le blairer parce qu'il est quand même un petit peu hors norme, ce garçon. Et justement, la transformation va accentuer ce côté-là. On y voit deux relectures qui sont assez intéressantes. C'est la relecture de La Mouche de Cronenberg, où on va voir la transformation peu à peu avec le mec qui va se découvrir de nouveaux atours physiques. Justement, les poils sur la langue, les poils dans les yeux, plein de petites choses qui vont commencer à le transformer peu à peu physiquement. Et il a du mal à le vivre, il a du mal à le comprendre aussi, puisque... comme dans le mythe du loup-garou, une fois qu'on a fait nos conneries, on oublie, évidemment. Et il y a aussi une relecture, et ça c'est ce qu'on a vu, de Carrie au bal du diable, qui même tu retirerais en fait le côté loup-garou, tu pourrais l'avoir, parce qu'il y a le côté le marginal, qui n'a pas fait, qui est même pas allé jusqu'au lycée, qui a sa copine, qui l'aime beaucoup, mais il y a tous les mecs qui aimeraient bien tourner autour de sa copine et qui le méprisent aussi à cause de ça, et qui vont le bizuter en fonction, qui vont sauter sa gueule régulièrement, et lui qui a toute cette colère qui monte en lui, cette envie de vengeance, et plus, il va commencer à le souvenir dans un gymnase. Je veux dire, on est quand même en plein dans Carrie, quoi. Et c'est super chouette de jouer sur ces relectures sans forcément trop les appuyer, en se disant ceux qui connaissent ces films-là vont apprécier. mais ça te propose quelque chose de totalement différent et voilà, un mythe du loup-garou totalement burlesque et décalé, quoi. C'est super chouette.
Mm-hmm. Donc un film qu'on va surveiller. On va surveiller la sortie, prévue pour janvier 2021.
Ouais, non, puis en plus, il faut souligner que Anthony Bajon est un acteur à en devenir et qui montre déjà aujourd'hui quelque chose de très très fort. Il arrive à aspirer la caméra, à hypnotiser le spectateur. Et c'est impressionnant parce que dès l'ouverture, dès ses premières répliques, dès ses premiers gestes, on est fasciné et en même temps mort de rire. Parce qu'il arrive à nous amener là où il le souhaite. Mais je pense que tout est fait pour... tout est vraiment fait au poil de cul, c'est-à-dire que les dialogues sont ciselés à la perfection, on sent qu'il y a un sens du rythme, c'est pas vraiment, je trouve, des dialogues juste pour la punchline, il joue beaucoup avec l'accent, sans forcément s'en moquer, hein, mais avec l'accent pour au contraire donner un nouveau rythme, pour jouer avec aussi, comment dire, avec le personnage d'Anthony Bajon qui, lui, va, t'as dit, lui qui va avoir des discussions totalement folles avec sa petite amie.
Mais c'est ce que tu disais, toi, Valentin, sur Anthony Bajon, c'est que, au final, il a même limite pas besoin de jouer, quoi. Dès l'instant qu'il est à l'écran et qu'on a son visage, il est tellement expressif qu'il le met en lumière et c'est déjà gagné. Donc, en plus de ça, il performe. Que veux-tu dire?
À surveiller. Allez, il nous reste assez peu de temps. Et bon, pour 2 heures sur lesquelles on va pas s'étaler, je pense. Parce que pendant que vous étiez allé voir du loup-garou, moi je suis allé voir un film qui fait vraiment peur. Pour d'autres raisons. Autre film en avant-première, mais pas canois, c'est bizarre. The Professor and the Madman. Non, on ne passera pas la bande-annonce. Non, non, non.
On l'a vu nous-mêmes, ça nous suffit. Si vous voulez vous faire du mal, cherchez-la.
Voilà, voilà. C'est un film assez effrayant, un film avec notre ami Sean Penn, notre ami Mel Gibson, Nathalie Dormer qui n'est hélas pas sur l'affiche, pourtant elle a autant de temps à l'écran que Mel Gibson, allez comprendre. Bizarre, bizarre. Et donc The Professor and the Madman, un film fin du 19e. On a l'université d'Oxford qui veut écrire un dictionnaire et qui demande à un professeur, interprété par Mel Gibson, donc qui va devoir rédiger un dictionnaire. Et comme il est un peu débordé, il lance un appel à l'aide, à candidature. Il invite les citoyens britanniques à participer. Et Sean Penn, donc, qui joue un médecin enfermé à l'asile parce que bon, il fait des crises de paranoïa et puis il a buté quelqu'un. Bon, voilà. Et voilà, va l'aider, il va lui envoyer une dizaine de, enfin 10 000 mots, même, enfin 10 000 propositions, enfin il fait là-bas un travail de malade, il va l'aider, et donc on va voir l'amour des mots de ces deux hommes qui va les sauver et les aider à avancer dans la vie, à se remettre debout, et en même temps c'est dramatique, et en même temps c'est dur parce que il y a de la maladie, et en même temps on aime les mots, on a de la belle citation, puis en même temps il y a du violon, on a 2 heures de violon.
Mais attends, parce que la bande-annonce c'est super mal montée, parce que nous, ce qu'on a vu quand même, c'est qu'on avait l'impression que c'était un mélange entre ça et Vidocq, parce qu'il y avait des scènes dans la bande-annonce où Sean Penn tatanait des gueules, quoi.
Alors, c'est la scène du début où il bute un mec au pif dans la rue.
Ah d'accord, oui, parce qu'en fait, la manière dont c'est monté, t'as l'impression que ça va qu'il y a quand même y avoir des moments d'action, t'étais là, qu'est-ce qui se passe, et les académiciens qui débarquent, non, vous n'écrirez pas ce dictionnaire, et puis...
Non, non, c'est...
Alors, Ross, un par un.
Non, non, moi, en voyant la bande-annonce, j'ai cru qu'on allait voir un remake de Malmoé, The Secret Mission, qui était un film qu'on a vu au Festival du film coréen.
Film coréen, très
sympa. Où des résistants coréens vont écrire un dictionnaire coréen parce qu'ils sont sous occupation japonaise, donc pour maintenir la langue coréenne et pour résister par la langue, créer un dictionnaire. Non, là, c'est juste de la concurrence parce que c'est la concurrence entre les dictionnaires et Oxford, ils passent pour des couillons parce que les autres dictionnaires sont mieux que le leur.
C'est un concours de bide du des gros mots.
C'est ça, voilà. c'est ça. Et voilà. Et oh là là, lire c'est bien. Et oh là là, lire c'est merveilleux. Et alors oui, c'est merveilleux, c'est super. Mais pas besoin de me mettre des violons pour le comprendre. Voilà, merci. Donc voilà. Et puis ils ont mis tellement de pognon dans les violons qu'il y en a tout le temps qu'ils ont plus de budget pour un trépied. Du coup, les gros plans au numérique sur les gueules, ça fait un peu vomir. Voilà. Bref. Et bon, on a de la chance, on verra pas au cinéma puisque ça va passer sur OCS, voilà. Donc je m'abonnerai pas pour ça en tout cas. Voilà. The Professor and the Madman de Farhad Safinia. Voilà. C'est une prof. Ah oui. Et la nationalité du pays, c'est Irlande, France, Islande, États-Unis, Mexique, Belgique, Royaume-Uni et Hong Kong. Voilà.
En gros, ils en ont chié pour le produire.
C'est de la bouillie. Merci. Alors, avant de finir, allez, deux dernières minutes. Vous avez raté le fameux Teddy, donc vous êtes rattrapé sur un documentaire.
Yeah.
Un documentaire OCS encore.
Kirk Douglas, l'Indompté, puisqu'effectivement, le festival de Deauville rend hommage à Kirk Douglas pendant cette édition 2020. Alors, ce doc.
Ah bah, il a été sacrément dompté, hein, Kirk Douglas, dans ce documentaire. T'as pas l'impression que c'est l'enfant terrible d'Hollywood qui n'en fait qu'à sa tête. Enfin, tel qu'un titre pareil pourrait te le laisser penser. Après, c'est peut-être à mettre en parallèle avec l'humeur de ce cher Hubert Attal, réalisateur du film, qui, quand il est venu le présenter devant, était aussi convaincant que seront les 55 minutes derrière, quoi. Je crois que, alors, faut savoir que du coup, on a la distanciation sociale au niveau des salles. Alors, autant dans le CID, on peut quand même à peu près être à côté, c'est des sièges qui sont divisés par deux. Autant quand tu débarques dans le casino, il y a vraiment un ruban qui bloque le siège, donc on peut pas s'asseoir à côté. Donc, tu sais pas ce que pensent tes copains. Donc, t'es là, tu regardes le truc, tu fais putain, c'est de la merde quand même. Hein. Il vit pas bien ce docu. Hein. Et puis, tu rigoles, et puis, t'entends des rires, quoi, à côté. C'est pas Marwan, ça, je sais pas. Puis tu te lèves et là, les trois se regardent. Et c'était de la merde. Ouais, c'était de la merde. Putain, et c'était pas bien, les copains. Hein.
Ah,
c'était pas bien, non? Un beau listing Wikipédia des films de Kirk Douglas. Donc, une belle petite lecture et une mise en image innommable. Il y a
Windows Movie Maker, non?
On est niveau Windows Movie Maker, certainement. Pas loin, ouais.
Il y a un moment où il y a un léger zoom sur une image. Et en fait, ce zoom-là, il n'y a rien d'autre. Il dure 5 secondes.
On pensait que c'était la fin du film. Moi, je pensais que le générique allait débarquer.
Ouais, ou encore, t'avais un intervenant. Il c'était le créateur du cinéma. Kirk Douglas, je sais plus où.
Un théâtre.
Un théâtre. Ou, après, je sais pas si c'est théâtre pour cinéma. Mais voilà. Mais, et en gros, le mec, il fait comme ce que je fais là. Il fait, et donc, oui, avec moi, Kirk, et il a laissé ça vraiment pendant 30 secondes et c'était terrible. Mais en fait, dans l'ensemble, ce documentaire est une honte parce que c'est d'une fainéantise, c'est d'une fainéantise morale parce que il ne fait que glorifier, il ne cherche pas à juste réfléchir sur le personnage, il ne fait que citer les trucs les plus faciles à trouver sur le personnage, il ne dit que des banalités, j'ai envie de mettre des doutes aux intervenants parce que je trouvais pas forcément très convaincant. C'est un historien de je ne sais où, et puis en plus de ça, le film a commencé à terminer par le centième anniversaire de Kirk Douglas.
Avec des plans sur Catherine Zeta-Jones qui chante Joyeux anniversaire à plus de temps d'écran que les intervenants, quoi, merde.
C'est vraiment ridicule et je pense que des lycéens seraient capables de faire un meilleur documentaire.
C'est ça, moi j'ai l'impression de voir un TPE de 4e, quoi.
C'est ça, totalement.
Bien.
Ah, Didoc, c'est vraiment. Il a joué dans ça. C'était bien. Après, il a joué dans celui-là aussi.
C'était moins viril.
Une fois, ils ont mis de la nuance quand même. Il a joué Van Gogh. C'était très bien. Il osait autre chose. Mais après, il est revenu à des rôles virils quand même.
La voix off qui te sort ça en plein milieu. Et en plus, quand tu sais qu'il y avait eu des tollés par rapport à ça, quoi, tu fais mais. Est-ce que vous êtes en train de soutenir le fait qu'il ait joué ce rôle-là? Qu'est-ce qui se passe? Que c'était pas bien, tu vois? Je sais pas.
Aïe.
Mais il donnait beaucoup d'argent et ça visiblement. C'est...
Bon, donc le doc Kirk Douglas l'a adopté. Bon, à éviter. Très bien. il y aura d'autres docs sur la croisette. Enfin, avait... on n'est pas sur la croisette. Oh là là, attention.
Il y a
oh
beaucoup de docs très courts, en tout cas cette année. Donc s'ils sont tous aussi bâclés que celui-là parce qu'ils les ont fait à l'arrache, on n'est pas dans la merde.
Il y a Pierre Lescure.
Pierre Lescure.
Ah, on ne sait pas. On ne sait pas.
Pierre Lescure l'indompté.
Suspense. Oui, est-ce, oui. Est-ce que vous irez si vous ratez un autre film,
écoute,
peut-être.
Pourquoi pas. On verra selon l'envie, le temps, le moment.
Selon l'envie et l'humeur.
Le masochisme.
Oui. Bien, c'était certain, la Madoville. Merci, messieurs. Il est tard. Là, au moment où on enregistre, on a passé les 2 heures du mat. Voilà.
Youhou!
C'est ça. Voilà, voilà. C'est pour ça que l'émission est un peu, voilà. C'est la première. On essuie les plâtres. Tout va bien. La prochaine sera bien meilleure. En plus, dans la prochaine, on aura encore des films de la compète et des avant-premières cannoises assez attendues. Notamment un certain The Goodman.
Attendu, pas forcément pour les bonnes raisons, mais ça fait jaser.
Ça fait jaser, avec Noémie Merland d'ailleurs. Bon, mais bref, plus de détails dans le prochain numéro de Certains la Madoville. Vous pouvez nous retrouver sur votre application de podcast préférée, commenter et partager l'épisode, ça, qui permettra de faire découvrir l'émission, ainsi que les épisodes classiques. Hein, parce que c'est vrai qu'on parle des émissions de Deauville, mais aussi un épisode classique qui est sorti samedi. Qui est vachement bien. Voilà, voilà. Vous pouvez également nous retrouver sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, à CLAC, podcast, CLAAC, podcast. À demain, si tout va bien.
Oui, alors là, moi, je suis chaud maintenant.
Oui, il est au taquet. Ah, c'est 2 heures du mat, il en peut plus. C'est que le premier...
En vrai, là, je suis parti. Là, vous n'allez plus me voir. Je serai comme bip bip. Non.
Non, mais là, on dort plus, là, parce que là, on repart, on va faire la queue devant la première, et on vérifie qu'on a bien nos passes, okay. Cette fois-ci.
Ouais, c'est sûr, parce que moi, j'en ai marre de faire des allers-retours.
Qu'est-ce qu'il y a sinon?
À demain, messieurs. Un dernier mot, peut-être, Thierry?
Ah, tu me prends un peu de cours, là.
Eh ben, tant pis, voilà.
Bonne nuit, les petits.
Je croyais que tu voulais dire une bêtise,
Nicolas,
c'est bon. Eh bien, tant pis, pas de bêtise avant de partir. Pas de bêtise avant de partir, tant pis. Bonne nuit. Bisous.
Salut, bisous.
Et on remercie Kostia aussi pour le générique qu'il nous a fait à la dernière minute.
Super. C'est du boulot merci express beaucoup. Et c'est bien fait.
Écoutez, on l'écoute, c'est super bien. Merci, bisous.
Bisous.